Vers le 10 août, les vacances furent interrompues pendant toute l'après-midi par un orage qui engendra, comme c'était à craindre, une dictée. L'oncle Jules, dans un fauteuil près de la porte vitrée, lisait un journal. Paul, accroupi dans un coin sombre, jouait tout seul au domino, c'est-à-dire qu'il les plaçait bout à bout au hasard après des réflexions et des soliloques. Ma mère cousait près de la fenêtre. Mon père, assis devant de la table, tout en aiguisant un canif sur une pierre noire, lisait à haute voix, en répétant deux ou trois fois chaque phrase, une histoire incompréhensible. C'était une homélie de la Menée qui racontait l'aventure d'une grappe de raisin. Le père de famille la cueillait dans sa vigne, mais il ne la mangeait pas. Il la rapportait à la maison pour l'offrir à la mère de famille. Celle-ci, très émue, la donnait en cachette à son fils, qui, sans rien dire à personne, la portait à sa sœur. Mais celle-ci n'y touchait pas non plus. Elle attendait le retour du père, qui, en retrouvant la grappe dans son assiette, serrait toute la famille dans ses bras, en levant les yeux au ciel. Le périple de cette grappe s'arrêtait là, et je me demandais qui l'avait mangé, lorsque l'oncle Jules replia son journal et me dit sur un ton grave « Voilà une page que tu devrais apprendre par cœur ». Je fus indigné par cette proposition agressive d'un travail supplémentaire, et je demandai « Pourquoi ?»« Voyons, dit l'oncle, tu n'as donc pas été touché par le sentiment qui anime ces humbles paysans. » À travers la vitre, je regardais tomber la pluie, qui vernissait en noir les branches du figuier, et je mordillais mon porte-plume. Il insista « Pourquoi cette grappe a-t-elle fait le tour de la famille ?» Il me regardait de ses yeux pleins de bonté, je voulus lui faire plaisir, et je concentrais toute mon attention sur ce problème. Dans un éclair, je vis la vérité et je m'écriai « C'est parce qu'elle était sulfatée !» L'oncle Jules me regarda fixement, serra les dents et devint tout rouge. Il voulut parler, l'indignation lui coupa le souffle. Il essaya successivement trois ou quatre syllabes gutturales, mais il était hors d'état de leur donner une suite qui eût précisé leur sens. Alors il leva les bras au ciel, puis son derrière de sa chaise, et dit enfin avec une grande violence « Voilà, voilà, voilà !» Ces trois exclamations débouchèrent le passage, et il put enfin s'écrier « Voilà le résultat d'une école sans Dieu !» Les effets grandioses de l'amour, il les attribue à la crainte du sulfate de cuivre. Cet enfant qui n'est pas un monstre vient donc de faire spontanément une réponse monstrueuse. Mesurez, mon cher Joseph, la grandeur de vos effrayantes responsabilités. « Voyons, Jules, dit ma mère, vous pensez bien qu'il a dit ça pour rire. »« Pour rire, s'écria l'oncle, ce serait encore pire. Je préfère croire qu'il n'a pas bien compris ma question. » Il se tourna de nouveau vers moi. « Écoute-moi bien. Si tu trouvais une très belle grappe de raisin, une grappe admirable, unique, est-ce que tu ne la porterais pas à ta mère ?»« Oh oui, dis-je sincèrement. Bravo, dit l'oncle. Voilà une parole qui vient du cœur. » Il se tourna vers mon père pour ajouter « Je suis heureux de constater que malgré le matérialisme atroce que vous lui enseignez, il a trouvé dans son cœur la loi de Dieu et il garderait la grappe pour sa mère. » Je vis qu'il triomphait et je vins au secours de mon père car j'ajoutais « Mais j'en mangerai la moitié en route !» L'oncle, mécontent, allait reprendre la parole lorsque mon père s'écria avec force « Et il a raison !» Car enfin, si ces gens-là avaient de si beaux sentiments, ils devaient aussi se repasser le cœur de la salade, le blanc de la poularde et le foie du lapin. Et comme une vertu parfaite est forcément inaltérable, cette ronde des bons morceaux a dû se poursuivre toute leur vie, pendant que ces malheureux, qui avaient tout de même besoin de se nourrir, se disputaient la tête du canard, l'os de la côtelette et le trognon du chou. Je viens de comprendre grâce à lui que cette histoire est d'une stupidité verticale. La vérité, c'est que votre Lamennais était un cagot. Et que pour édifier les fidèles, il est tombé, comme tous les curés, dans un absurde prêchi-prêcha. À cette attaque frontale, l'oncle, la moustache brusquement hérissée, allait répondre avec vigueur. Lorsque ma tante Rose, qui du fond de la cuisine, où elle surveillait un civet de lapin, avait senti venir la bagarre, parut sur la porte. Elle brandissait le panier à salade, tandis que sa main gauche tenait par la pointe un capuchon noir de toile cirée, et elle cria gaiement « Jules, il ne pleut presque plus, vite aux escargots !» Sans lui laisser une seconde, elle lui mit dans les mains le panier de grillage et lui enfonça le capuchon jusqu'aux narines comme un éteignoir de la conversation. Il lui était difficile, dans cet équipage, d'entamer une diatribe. Il essaya pourtant de rouler quelques airs et nous entendîmes « Vraiment trop triste et trop affreux, ce pauvre enfant !» Mais ma tante, qui l'avait fait pivoter en riant, le poussa dehors sous une pluie battante, puis elle referma la porte et lui envoya à travers la vitre un baiser dont la tendresse n'était pas feinte. Enfin, elle se retourna vers nous, soudain fâchée, et dit « Joseph, vous n'auriez pas dû commencer. » L'oncle Jules, qui aimait la pluie, ne revint qu'au bout d'une heure, trempé mais joyeux. Une belle barbe de bave pendait sous le panier à salade. L'oncle avait des épaulettes d'escargot. Et le chef de la tribu, qui était énorme, orientait en vain ses cornes à la pointe du capuchon noir. Mon père jouait de la flûte, ma mère l'écoutait en ourlant des serviettes, la petite sœur dormait sur ses avant-bras et je faisais une partie de domino avec Paul. L'oncle fut accablé de félicitations et il ne fut plus question de l'amener. Mais le soir à dîner, il prit une cruelle revanche. Ma mère venait de poser sur la table le civet de lapin, nimbé du parfum des aromates. D'ordinaire, à cause de mes grands efforts scolaires, le foie m'était réservé. Et dans la sauce veloutée, je le cherchais déjà des yeux. L'oncle Jules le vit avant moi et le piqua au bout de sa fourchette. Il le dressa dans la lumière de la lampe, l'examina, le flaira et dit « Ce foie est admirablement cuit. Il est sain, il paraît tendre et onctueux. C'est certainement un morceau de choix. Je me ferai donc un devoir de l'offrir à quelqu'un s'il n'y avait à cette table certaines personnes qui le croiraient empoisonné. » Sur quoi il éclata d'un rire sarcastique et sous mes yeux, il le dévora.